Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par une chronique de Altermonde. C'est une revue, mais c'est un numéro qui est déjà ancien. Et le titre, ça s'appelle « Crise de rire » de la novlangue. C'est par Franck Lepage, qui est fervent militant de l'éducation populaire et créateur des conférences gesticulées dont vous avez peut-être entendu parler une fois ou l'autre et qui sont vraiment des façons extraordinaires de faire de l'éducation populaire. Et Philippe Merlan, qui est journaliste, co-auteur de Média, la faillite d'un contre-pouvoir. Les mots que nous utilisons en disent souvent plus que le sens que nous voudrions leur donner. Certains même, en prétendant décrire une réalité, finissent par y faire écran de fumée. Nos deux bûcherons anti-langues de bois s'attaquent pour ce numéro à la crise. La mystification commence en 73 avec la crise pétrolière entre guillemets. Coup de génie des classes dominantes relayées par des médias aux ordres qui nous informent que des décisions prises très loin de nous et sur lesquelles nous n'avons aucune prise auront des répercussions sur notre vie, sur notre niveau de vie. Le président Pompidou, ancien fondé du pouvoir de la banque Rothschild, l'annonce à la télé. Il va falloir se serrer la ceinture. Fini l'abondance. Peu de temps après est entérinée la fameuse mondialisation. Un gag dont le véritable nom est la dérégulation et dont l'enjeu est de faire sauter toutes les barrières du droit qui encadraient la prédation par les possédants. Qu'est-ce qu'une crise économique? Un manque de richesse? La richesse a-t-elle disparu? Bien sûr que non. La France la transpire par tous les ports. Un seul chiffre. Entre 1978 et 2014, le cinquième pays le plus riche du monde a doublé son produit intérieur brut en volume, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation. Dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté de près de 10 points de 67 à 57% environ au profit des profits. Et l'essentiel de ce basculement a eu lieu dans les années 80, les années « socialistes » entre guillemets. Depuis la fin des années 70, plus de 1000 milliards d'euros supplémentaires se baladent en France. De quelle crise s'agit-il alors? À la fois d'une crise de surproduction et d'une crise de répartition de la richesse produite? L'objectif est de défaire méthodiquement de réformer la sécurité, la protection sociale en s'attaquant aux avancées issues de 1945, détérioration du pouvoir ouvrier sur la sécurité sociale par De Gaulle avec les ordonnances de 67 qui organisent la parité entre guillemets. Démolition de la souveraineté salariale sur la formation avec la loi Delors de 71, mise à mal progressive des retraites à partir du livre blanc de Rocard en 91, puis de l'assurance chômage avec Jospin et de la santé et des allocations familiales avec Hollande. Le projet totalitaire d'une société entièrement marchande a ses metteurs en scène pour nous rappeler qu'il y a crise et qu'elle a un cadre, l'Union européenne, qui, Dieu merci, est là pour nous protéger. Que dit l'étymologie? La crisis grecque désigne le moment où l'avenir se décide. C'est l'heure du choix, de la remise en cause, de la décision. Où donc, forcément, plusieurs options s'offrent aux protagonistes? N'est-il pas comique de constater qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit? Le terme est usé, abusé, utilisé jusqu'à plus soif pour nous convaincre qu'une seule politique est possible. Le problème, c'est qu'à force de durer, de se pérenniser, on ne sait plus à quel autre terme se vouer quand une vraie crise apparaît comme celle de 2008. Ne reste plus alors qu'à verser dans la surenchère. On évoque désormais l'état d'urgence, Décliné sur tous les modes, sécuritaire, bien sûr, mais aussi écologique, économique et social. Quand une crise, entre guillemets, dure depuis 40 ans, et qu'en plus elle est mondiale, il ne s'agit plus d'une crise, mais du fonctionnement normal d'un système. Il est temps de mettre la crise en crise. Je reviens à des considérations plus terre-à-terre, plus paysannes, si l'on peut dire, terre-à-terre, parce que l'histoire de la crise, c'est bien une histoire de terre-à-terre. Dans Campagne solidaire du mois de janvier, à la rubrique vie syndicale, je lis « Urgence pour un droit au revenu des paysans ». La publication des comptes prévisionnels 2016 de l'agriculture française confirme ce que les paysans et les paysannes savent déjà depuis trop longtemps. Leur travail est de moins en moins rémunéré. Le revenu courant avant impôt de 2015 est en effet inférieur à 7 000 euros pour 25% des fermes. Cette proportion sera clairement en augmentation en 2016 puisque le résultat brut de la branche agricole par paysan est en baisse de 15%. Dans le même temps, le nombre de paysannes et paysans continue de diminuer. La commission des comptes a beau invoquer la conséquence d'épisodes climatiques et une prétendue amélioration de la situation dans les secteurs porcins et laitiers. Cela ne change pas grand-chose au fond du problème. Face au constat d'une dégradation constante de la situation économique des paysans et de crises à répétition, le ministère voudrait nous faire avaler la multiplication d'assurances revenues dans le futur PAC. En clair, nous faire payer pour avoir de quoi vivre et faire tourner la ferme. Alors que le taux d'endettement atteignait un record, 43% en 2015, cette proposition est inacceptable et démontre un réel mépris de la réalité des paysans. La Confédération paysanne demande que des travaux soient lancés pour la mise en place d'un droit au revenu basé sur une rémunération garantie pour un volume produit lié au prix de revient et en interdisant la vente à perte. C'est un communiqué du 13 décembre. Toujours dans vie syndicale, foncier et détournement sociétaire, sortir de l'hypocrisie. Le 8 décembre, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi Sapin qui visait à instaurer un mécanisme permettant aux SAFER d'intervenir dans les transferts de parts sociales de sociétés agricoles. La Confédération paysanne rappelle que le texte attaqué faisait suite à la découverte d'une vaste opération d'accaparement foncier, plusieurs milliers d'hectares concernés, dans le Berry par des capitaux d'origine chinoise. La révélation dans la presse avait occasionné des réactions indignées et unanimes. Ce cas médiatique n'est que l'arbre qui cache la forêt, mais les articles attaqués avait bien pour objectif de conforter la transparence et d'éviter les contournements du pouvoir d'intervention de la SAFER permis par les montages sociétaires, comme ce fut le cas pour les 1000 vaches. La Confédération paysanne s'étonne que les députés du groupe Les Républicains, à l'origine de la saisine du Conseil constitutionnel, remettent en cause la possibilité d'intervenir de la SAFER et de la profession agricole sur ces opérations. Le 15 septembre 2014, le même groupe parlementaire de députés attaquait déjà la loi d'avenir sur les dispositions SAFER qui tentait là aussi d'instaurer transparence et contrôle sur des mouvements de transfert de propriété jusqu'alors totalement opaques. Que cherchent donc ces députés alors que la loi d'avenir avait pour ambition de limiter les agrandissements et de favoriser les installations? La Confédération paysanne rappelle que la terre est l'outil de production dont les paysans ont besoin. C'est d'une telle évidence et pourtant on est obligé de rappeler ce genre de choses. Elle demande à la représentation nationale de porter une loi foncière ambitieuse renforçant la transparence et l'équité dans l'accès à la terre afin de développer l'emploi paysan. C'est le moins que l'on puisse attendre de parlementaires responsables et conscients des enjeux. Et puis, une dernière brève. Des choix qui en disent long. Les nouvelles régions passées à droite fin 2015 taillent dans le vif en matière de prévision budgétaire 2017. Les projets de budgets agricoles amputent toutes les aides, y compris les aides PAC qui dépendent désormais des régions, qui ne passent pas par le canal des affiliés à la FNSEA. Donc, ça ampute toutes les aides qui ne passent pas par le canal des affiliés à la FNSEA. La Fédération nationale d'agriculture biologique, la FNAD, dénonce un arbitrage très clair en faveur du réseau des chambres d'agriculture, tenu par la FNSEA, bien sûr. En Île-de-France, l'aide régionale allouée au groupement des agriculteurs bio est amputée de 150 000 euros. En Rhône-Alpes, la saignée est de 70%, même situation en Pays de la Loire. AMAP, RDR, Antenne régionale de Terre de Liens, Confédération paysanne, toutes subissent le même sort. Les choix budgétaires éminemment politiques sont clairement orientés vers l'asphyxie des organisations hors du champ sous contrôle de l'agriculture dominante. Pas rassurant à la veille de l'élection présidentielle, à l'issue de laquelle pourraient être prises des décisions du même acabit. Allez, continuons à nous battre. Dans Campagne solidaire du mois de janvier, dans la rubrique Actualité, grand prédateur. À quoi servent les loups en France? Les attaques de loups continuent dans de nouvelles régions, parfois loin des estives. Témoignage reçu par courrier d'un éleveur du Var, dont le troupeau a été attaqué fin octobre, puis début novembre. Nous avons subi une première attaque de loups dans la nuit du 30 au 31 octobre sur la commune de Valdemour, lieu dit Malamère, dans les Alpes-Maritimes. Le ou les loups sont rentrés dans un de mes parcs électrifiés où se trouvent mes brebis avec leurs agneaux. Étant en pleine période d'agnelage, les agneaux les plus vieux ont un mois. 4 brebis ont été tués, de nombreux animaux blessés, plus ou moins grièvement. Le matin, en arrivant au parc des brebis, compte tenu que l'équarrissage n'était pas encore venu ramasser les cadavres, un jeune agneau était couché près de la bâche qui recouvrait sa mère. Cette scène est un vrai crève-cœur et compte tenu que ce sont plusieurs agneaux de moins d'un mois qui se retrouvent orphelins de mère, je vous laisse voir un peu le travail que cette attaque me laisse, soin des blessés. Essayez de faire prendre les biberons aux orphelins, sans compter les brebis qui cherchent leurs agneaux morts dans l'attaque et qui risquent de faire une mamite car elles ne sont plus tétées, brebis à réformer car elles n'auront pas de lait à l'agnelage suivant. Les protecteurs des loups devraient venir voir le désastre causé à mon troupeau. Les brebis ne veulent plus aller dormir dans le bois, les parcs électrifiés, où l'attaque a eu lieu. Elles restent dans les prés qui gèlent, alors que dans les bois, elles étaient à l'abri. Je ne peux plus me servir des chiens de de conduite car elles en ont peur, les assimilant à des loups. Je dois utiliser des doses antibiotiques assez fortes pour essayer de sauver des animaux blessés, car je ne peux les laisser souffrir. Que ces personnes-là, les protecteurs du loup, viennent vivre notre quotidien. Je me lève plusieurs fois dans la nuit pour voir si tout va bien. Le matin, avant le jour, je suis autour de mes parcs avec l'appréhension de trouver encore des cadavres et des brebis éventrées. Je vous donne juste les grandes lignes de ce qu'est devenu ma vie ainsi que celle de mes brebis depuis que les loups ont décidé de s'en prendre à nous. Je sais que l'on va me répondre que nous sommes largement indemnisés, mais le préjudice moral, psychologique, émotionnel devant de telles choses, personne n'en parle. Personne ne prend le temps de venir nous voir, de venir ramasser les cadavres, soigner les brebis et les agneaux blessés. Impuissance, je peux vous garantir que tout ça nous donne froid dans le dos. Imaginez la mauvaise surprise en arrivant au parc, tous ces agneaux étendus sur le sol, morts, juste saignés pour le plaisir que procure la chasse à ces loups. Une brebis a été transpercée de part en part par une branche. Des agneaux vivants, mais saignés, apeurés, bavent, car les morsures ont déclenché de gros œdèmes qui les font souffrir, les empêchant de téter leur mère. Je reste impuissant face à tout cela. Aucune solution ne nous est donnée. Les tirs de prélèvement plafonnés chaque année ne font que vider la mer à la petite cuillère. Je suis éleveur depuis que j'ai 20 ans et j'en ai bientôt 50. J'ai toujours fait et je ferai toujours mon métier avec passion. Mais quand vous subissez des attaques de ce genre, ainsi qu'en montagne durant l'estive, vous vous demandez contre quoi vous vous battez. La grande question à se poser, c'est à quoi servent les loups en France? Si quelqu'un pouvait me donner une réponse valable et non un discours sur la chaîne alimentaire, j'en serais ravi. Les autres éleveurs, tout comme moi, sont fatigués, épuisés, déprimés face à des attaques de plus en plus cruelles. Car le comportement des loups change. Ils se rapprochent des villes, descendent en plaine. Personne ne prend conscience du danger que cela représente. Nous sommes tous là de cette guerre contre le gouvernement qui ne sait répondre que par une contrepartie financière. Mais si la France endettée économisait de l'argent, s'il n'y avait plus d'attaques en plus et plus de loups sur le territoire, il y aurait de sacrées économies de fait. Je demanderai juste à ceux qui ont décidé la réintroduction du loup, à ceux qui les protègent, à ceux qui travaillent à des lois qui font que nous ne sommes restreints à un minimum chaque année de prélèvement de venir vivre notre quotidien face à la prédation, face à l'angoisse. Nous ne parlons plus que de ça entre nous. Nos sujets de conversation sont de savoir combien d'attaques ont eu lieu en été ou au cours de l'année, d'essayer de soutenir les éleveurs qui subissent encore et toujours, ou de se raconter les nuits où nous allons dormir à côté des troupeaux, l'hiver quand il gèle. Les défenseurs des loups n'ont pas de sang sur les mains, alors que nous n'avons rien demandé. Nous en avons à notre grand désespoir. Nous avons déjà subi de nombreuses attaques ces dernières années. Et voilà que cela recommence à un endroit loin de l'estive où nous étions tranquilles jusqu'à présent. Dans la nuit du 6 au 7 novembre, les loups ont remis ça. Cette fois, les victimes sont des brebis sur la fin de l'agnelage. Certaines ont mis bas et d'autres pas encore. Et une fois de plus, c'est un massacre. Il manque 14 brebis et 6 agneaux, en plus des brebis et agneaux tués. L'horreur au quotidien. Une de mes brebis était gestante, elle a été tuée et le ou les agneaux à l'intérieur ont été mangés. La brebis a été quasiment consommée. Je doute fort qu'un loup mange autant de viande à lui seul. Une autre brebis a été éventrée. Une patte de l'agneau sort de son ventre. Nous n'avons plus de mots pour dire à quel point ces visions d'horreur font partie de notre quotidien. Aurélie Abondance, éleveuse dont les animaux partagent le parc avec le mien, a décidé de vendre ses 250 brebis de race à viande afin de n'avoir plus que son troupeau laitier. Je ne sais pas si nous tiendrons le coup, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne resterons pas les bras croisés à attendre que tous les troupeaux soient décimés les uns après les autres. Aurélie dit que de toute façon, c'est nous, éleveurs, qui sommes les plus bêtes et ignorants, car nous sommes engraissés à coups de primes de la PAC, s'ajoutant aux primes de la mesure loup et aux indemnisations. Nous regardons le problème à l'envers, car accepter les indemnisations et l'argent de la mesure, cela veut dire que nous sommes consentants de vivre avec les loups. Aurélie ne veut plus recevoir un centime de la part de ces organismes pour les brebis constatées tuées par le loup. Elle est écœurée de devoir vendre ses brebis pour ne plus subir tout cela. Quelqu'un attend-il que les fusils que nous avons le droit d'avoir avec nous pour des tirs de défense ne soient plus pour les loups, mais pour nous ?
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans ? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Oui, après cette lettre terrible de cet éleveur du Var, je voudrais revenir sur l'histoire des loups. Il y a quelques années, le vétérinaire que nous avions dans les Hautes-Alpes, Alain Boutonnet, qui est maintenant un peu à la retraite et vivant à Nyons, me disait que ce qui l'étonnait beaucoup, c'est qu'en Italie et en Espagne, où les loups sont beaucoup plus nombreux, il n'y avait pas autant de dégâts parmi les troupeaux de moutons. Alors, je ne sais pas si... Je ne l'ai pas vu depuis pas mal de temps, donc je ne sais pas quelle est son opinion là-dessus. Est-ce que les loups français étaient différents de ceux d'Italie et d'Espagne? Ou... Apparemment, d'après ce qu'il me disait, les bergers étaient mieux armés pour se défendre des loups. Mais d'après ce que dit cet éleveur, il semblerait que le comportement des loups a évolué et ce serait intéressant de savoir si en Italie et en Espagne, le comportement a changé aussi. Ils sont beaucoup plus agressifs et c'est sûr que là, il faut vraiment qu'il y ait des solutions un peu meilleures que ce qui est proposé aux éleveurs parce que je sais ce que c'est que de perdre des animaux, surtout dans des conditions comme ça. Il faut avoir le moral bien accroché. Dans ce domaine-là, je veux quand même vous signaler un film magnifique que j'ai vu, qui est réalisé par un haut alpin qui a passé des mois à traquer le loup. Je crois que c'est dans le Champsaur. C'est un film à voir parce que d'abord, ça nous fait connaître un peu ce que sont les loups, la façon dont ils vivent, parce qu'il a mis des mois à se laisser, à ce que les loups l'intègrent dans leur paysage. Et c'est intéressant de voir la façon dont il a procédé. Et puis alors, il y a des paysages absolument magnifiques qui réjouissent le cœur, rien que de voir ces belles montagnes du Champsaur. Donc, à tout hasard, je vous invite à aller le voir. C'est du point de vue documentaire et du point de vue esthétique, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous apporter. Donc, pour aujourd'hui, on va achever l'émission avec une des plages de campagne de Paysam, le CD qui a été fait pour les 20 ans de la Confédération Paysanne par un certain nombre d'artistes.
Tu sais l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage, on ne se connaît pas. Pourtant chacun a notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne pour l'agriculture paysanne. Chez toi, c'est comme ici. C'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie, sans s'occuper du résultat. Nous, on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi, tu t'inquiètes de la malbouffe. Si c'est ce qui nous étouffe, on veut rester à la campagne. Vive l'agriculture paysanne.
Amis auditeurs, merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur FM+, et je vous souhaite une très bonne semaine.
Y'a encore trop d'exploitation, qu'à tout prix on doit s'agrandir. Nous on n'est pas des mercenaires, prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages, c'est fait par des paysans libres. Si tu est inquiet de la malbouffe. Nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne. Vive l'agriculture paysanne.